Voilà, nous sommes au troisième jour de notre séminaire intitulé Évangile et culture. Pourquoi nous avons refait ce séminaire? Parce qu'il y a une réalité que nous vivons à notre époque, c'est que beaucoup de personnes qui sont appelées par Dieu, qui ont été touchées par Dieu, ont du mal à décoller pour servir Dieu. Et même quand ils décollent pour servir Dieu, ils se font rattraper par leur culture d'origine ou leur culture d'emprunt, d'accueil. Et ils retournent en arrière. On avait pris un exemple très fort, l'exemple de l'apôtre Pierre, un apôtre aimé du Seigneur, qualifié par le Seigneur, une colonne. L'apôtre Paul appelait Pierre, Jean et Jacques, les colonnes de l'Église. Mais l'apôtre Pierre, à un moment, dans Galates au chapitre 2, c'est expliqué là, à cause de sa culture d'origine, a failli être un frein pour l'Évangile. Donc, il évitait les chrétiens d'origine étrangère, les chrétiens non-juifs. Il commençait à les éviter. Or, ça allait bloquer complètement la logique de Jésus qui a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Donc, la puissance de la culture a agi sur Pierre. Si la puissance de la culture a agi sur Pierre, à combien plus forte raison sur nous? Donc c'est ça le but de ce séminaire, nous amener à nous examiner face à la culture, nous amener à être très vigilants. Notre culture peut être un obstacle pour l'action de Dieu dans nos vies. Ça peut être un obstacle pour l'appel de Dieu. Et surtout, même quand on est déjà dans cet appel, ça peut être une porte par laquelle le diable va entrer pour nous faire tomber. Parce que, à la différence des tentations du genre voler, frapper, manifester de la colère par des actions violentes, la culture, elle est douce. Elle est comme une seconde nature. Elle travaille sans qu'on s'en rende compte parce que c'est devenu une habitude, une seconde nature. Parce que la culture, c'est l'héritage des connaissances, héritage des pratiques, des comportements, de la religion. C'est des héritages qui sont en nous et qui font que ça devient comme un deuxième nous, mais collé à nous. Et on a l'impression que c'est même bon. Alors que c'est juste un héritage reçu. Or, quand le Seigneur vient, il dit à Nicodème, « Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. » C'est ce qu'il dit à Nicodème. Quand Nicodème vient voir Jésus la nuit, Jésus lui dit, « Je n'ai pas de secret à te donner pour devenir un grand maître. Ce que j'ai à te dire, Nicodème, c'est que tu dois devenir une nouvelle personne. » Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, négligent cela. Ils sont tombés dans la culture, ils sont tombés dans la culture religieuse aussi. Et ils ne peuvent pas décoller. Or, le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On a parlé avec un frère, d'un pasteur, lorsqu'il était jeune, il aimait beaucoup le football, il faisait partie des hommes forts des stades. Vous savez, il y a des fan clubs. Voilà, il faisait partie de fan clubs de son équipe qu'il aimait. Mais quand cet homme-là devient pasteur, au début, il prêche pour expliquer que on ne doit pas être esclave du foot. Un chrétien doit travailler pour le royaume de Dieu. Il ne doit pas être esclave du foot. Est-ce que tu as vu Jésus supporter une équipe, des choses comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce pasteur, non seulement il supporte une équipe, il a une équipe. Donc ce n'est pas qu'il supporte. Il a une équipe de football dont il est propriétaire. C'est ce que le pasteur David a dit le vendredi, c'est le retour de l'esprit impur. Il avait vaincu sa culture footballistique, mais 20 ans, 25 ans plus tard, c'est revenu. Et il est parti plus loin. Vous connaissez le passage de Matthieu 12 hein, qui dit quand l'Esprit sort, quand il va revenir, il revient sept fois plus fort. Il revient. Donc, c'est-à-dire là, il était juste membre du fan club, l'homme fort, le gros bras. Mais quand l'Esprit est revenu, là, il est propriétaire de l'équipe. Et utilise les chantres du monde pour soutenir son équipe. C'est vraiment le contraire de ce qu'il disait quand il était nouveau pasteur. C'est pour nous dire, attention, ça peut revenir. Nul n'est à l'abri. Mais comment ça revient? Par la douceur de la culture. Les petits compromis de la culture, petit à petit, sans que tu te rendes compte, tu fais des petits compromis à ta culture d'origine ou d'accueil, parce que les cultures, ça bouge aussi en fonction de nos mouvements. Donc, tu fais des petits compromis invisibles à l'œil nu, mais tu le fais par la culture, eh bien, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. C'est pourquoi nous donnons le séminaire afin que nous soyons vigilants, afin que nous ayons une attitude de méfiance face à la culture. On a bien dit qu'on ne cherche pas à faire des révolutions sociales. Il y a des choses de la culture qu'on utilisera comme moyen, mais pas comme logique de vie. Que je m'habille en chemise, cravate, c'est juste un moyen de s'habiller. Mais si aujourd'hui, je n'en avais pas, et qu'on me donne un boubou, et que je refuse de prêcher parce que je n'ai pas de chemise et de cravate, là, ça, c'est une logique de vie. Mais utiliser un vêtement comme moyen de travail, il n'y a pas de problème. Utiliser la voiture comme moyen de travail, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je me retrouve missionnaire quelque part où il n'y a pas de voiture, et je dis je ne peux pas monter sur un carrosse conduit par des chevaux, là, il y a une logique de travail. Ce n'est plus un moyen. La voiture n'était plus un moyen, c'est devenu ma culture, c'est devenu une logique de vie. Et c'est ce que nous nous opposons à ça, à ce que ta culture devienne ta logique de vie. Il y a des éléments de ta culture qui peuvent être des moyens de travail, des moyens de vie, mais pas une logique de vie. Quand on transforme ça en logique de vie, on s'oppose à la nouvelle naissance que Christ nous donne. Et on a expliqué la puissance de la culture, même dans le monde. Les nations sont plus puissantes les unes par rapport aux autres en fonction aussi de leur culture, ce n'est pas en fonction de l'intelligence humaine, parce que l'humain dans le monde entier est intelligent de la même manière. Mais en fonction de la culture, une nation va être plus grande qu'une autre, parce que dans une nation, les gens sont prêts à faire des sacrifices, dans une autre, les gens ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Dans une nation, les gens ont le sens de l'honneur, par exemple les Japonais ont le sens de l'honneur. Un Japonais qui a mal travaillé en tant que chef d'entreprise, il démissionne de lui-même. Mais dans d'autres pays, un PDG qui a mal travaillé, il faut le chasser. Si vous ne le chassez pas, il va rester là. Donc, ce n'est pas la même culture. Et ça influence le pays et le pays va aller moins bien dans là où la culture a tendance à étouffer l'évolution, la progression. Et le pays va aller mieux là où les gens sont prêts à se sacrifier pour la communauté, prêts à se sacrifier pour les autres et qui ont un sens d'honneur, d'honnêteté. Il y a des gens comme ça, des pays comme ça où les gens ont ce sens-là. C'est la culture. Et ça influence l'évolution des pays. On a vu par exemple au Burkina, les gens ont un sens de l'honneur, de l'intégrité. Et ils ont pu renverser un dictateur qui était bien en place. Parce que les gens sont prêts pour le sens de l'honneur à se battre et à pour leurs droits. Mais vous prenez beaucoup de pays en Afrique centrale, mais qui va se sacrifier pour les autres? Chacun veut profiter. Et donc à partir de là, les dictateurs restent en place. Donc l'évolution des pays dépend de la culture des pays. C'est une réalité. Mais ce qui attire notre attention, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que les cultures peuvent étouffer le travail que Dieu a à faire avec nous. C'est ça qui nous intéresse. Attention, ta culture d'origine, ton héritage peut étouffer ce que Dieu veut faire avec toi. Si ça a voulu étouffer Pierre, ça peut t'étouffer toi aussi. Vous vous rendez compte, comme nous l'avions dit hier, que le Seigneur Jésus a été obligé de susciter Paul. Parce qu'une grande partie de la doctrine que nous avons en Christ vient des écrits de Paul. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus a bien vu que ses apôtres, qui n'ont jamais quitté Israël, les Jean, les Pierre, tout le reste, qui sont restés qu'en Israël, avaient du mal. Même s'ils connaissaient la doctrine, même s'ils ont vécu, on l'a dit hier, ils ont vécu des événements où Jésus leur a montré qu'il est là pour le monde entier. Hein, l'histoire avec la femme samaritaine, la fille de la femme cananéenne que Jésus a guérie, le centenier romain, le serviteur de ce centenier, Jésus l'a guéri. Ils ont vécu des choses, des événements avec le Seigneur qui montraient bien que le Seigneur est là pour le monde entier, mais leur culture les empêchait de vraiment considérer la chose. Ils étaient tellement habitués au fait que les étrangers étaient des barbares en esprit, qu'ils étaient des intouchables, qu'ils avaient du mal à accepter l'évangile qui voulait sauver l'humanité entière. Ils continuaient à prêcher l'évangile aux Juifs en traînant les pieds pour prêcher aux païens. Et le Seigneur a été obligé de susciter Paul. Paul, qui était, c'est vrai, d'une manière sanguine, par le sang, il était plus juif que tout le monde, que tous les autres, mais Paul qui est né à Tarse, qui a grandi aussi à Tarse, tout en faisant des voyages à Jérusalem. Donc Paul connaissait deux nations, la nation étrangère et la nation d'origine. Donc il connaissait les deux. Jésus a été obligé de le prendre, lui, pour qu'il soit le fer de lance du christianisme. Et c'est ce qu'il dit, Dieu m'a fait apôtre des païens, parce qu'il a vu que les apôtres d'origine avaient du mal, par leur culture, à s'adresser aux païens. Alors Dieu a fait de Paul l'apôtre des païens. L'attachement à notre culture nous empêchera de servir les autres, les gens d'autres cultures. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de la libération. Il faut se libérer de ta culture d'origine. Il faut cesser de croire que c'est ta culture d'origine. D'une manière involontaire, tu le crois que c'est la bonne. Non! Toutes les cultures sont nocives. Elles sont dangereuses parce qu'elles procèdent de la nature humaine et des esprits démoniaques. C'est ce qu'on a vu hier avec Éphésiens 2. Les esprits démoniaques sont derrière les cultures pour emprisonner les gens dans des fausses idéologies, dans des fausses pratiques. Et Jésus est venu nous libérer de tout ça, afin que, libérés de cela, nous puissions être utiles à toute l'humanité. Quelqu'un qui est esclave de la culture, de sa culture, ne peut pas être un instrument entre les mains de Dieu pour sauver d'autres personnes. Même pour sauver même les gens de sa propre culture, il va y avoir toujours un blocage à un moment donné parce qu'il va mélanger sa culture avec l'évangile. Nous devons être libérés. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 9, 10 à 22. On commence par lire ça. 1 Corinthiens 9, 10 à 22. Hier, nous avons parlé de quelques sortes de cultures, la culture américaine, française, un peu d'Afrique centrale, pour nous donner des exemples, nous montrer comment la culture peut agir et empêcher les gens de vivre l'évangile à 100% et de progresser dans le Seigneur. Nous avons bien montré comment la culture de l'argent aux États-Unis, la culture de la réalisation personnelle aux États-Unis a fini par détruire l'Église. L'Église visible, hein, l'Église véritable du Seigneur existe toujours. Elle travaille, elle est cachée, mais elle travaille. Mais l'Église visible, elle est détruite parce que c'est l'Église des supermarchés, les méga-church, où on vend tout, on vend les livres, on vend les séminaires, on vend les champs. Donc l'industrie chrétienne vient des États-Unis parce que c'est un pays culturellement amoureux de l'argent et amoureux de l'industrie commerciale. Voilà, et à partir de là, l'Église en a été contaminée et c'est ce qu'elle est devenue. Et elle contamine l'Église du monde entier visible, mais les résistants, les combattants, eux, ils refusent les systèmes financiers dans l'Église, ils restent dans la vérité, bien sûr. Ils sont peu nombreux, mais ils sont actifs et Dieu les utilise. Les choses peuvent changer avec eux. Donc les cultures, ça change les églises locales. Donc il faut faire attention. On a vu l'influence de la culture bouddhiste avec Yonggi Cho dans l'église de Corée, où les gens faisaient des pratiques du bouddhisme dans le christianisme. Voilà, donc on voit ça agir. On voit là, dernièrement, on voyait une vidéo d'une église en Afrique centrale qui s'appelle la danse de David. Donc, ils sont spécialistes de la danse dans cette église-là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, en réalité, ils aiment la danse dans le monde. Ils ont mis ça dans l'église. Je peux vous dire, ils ont tapé la danse plus que les gens du monde dans la vidéo là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la culture qui s'est invitée dans les choses de Dieu. Il faut faire attention, bien-aimé. Mais ça commence à te manger petit à petit par les réunions de famille, par ceci, cela, par des systèmes de famille où on n'est plus ensemble, mais on se comporte comme si on était toujours dans notre maison. Or, chacun est marié dans son coin, mais quand on parle, c'est comme si tous on est encore chez le parent. Non! Donc, chacun est marié dans son coin. Donc, quand on se parle, il faut qu'on considère cela. Mais quand on ne considère plus cela, tu es marié, mais tu te comportes comme si tu étais encore chez tes parents. Là, il y a un problème. Donc, ta culture te tient. Et le jour où il y aura un choix à faire entre servir Dieu et ce système-là, tu choisiras ce système-là. On ne peut pas servir deux maîtres. Oui, 1 Corinthiens 9, 10 à 22.
1 Corinthiens 9, 10 à 22. « Où parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? »
Voilà, ce qui m'intéressait, c'était 13 à 22, je m'excuse.
13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits.
C'est 1 Corinthiens, là nous sommes à 2 Corinthiens, je crois.
Non, c'est peut-être à partir du verset 19.
Ah, 19 alors.
Car c'est bien que je sois libre à l'égard de tous. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre.
Oui, c'est ça, on commence à 19.
Oui. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Voilà ce que Paul dit. Il dit, mais ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Les gens qui préparent les Jeux olympiques, les gens qui préparent les championnats du monde, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimé, ce n'est pas de l'amusement servir l'Éternel. C'est une course, Paul dit. Et il y a des abstinences, il y a des choses comme ça qui nous seront imposées. Longtemps, je me suis posé, autrefois, je m'étais posé la question concernant le fait que par rapport à ma famille d'origine, je suis le seul en France, tout le monde Ils sont ensemble aux États-Unis, ils sont ensemble en Afrique du Sud, ils sont ensemble au Congo. Mais pourquoi je me retrouve tout seul? Mais après, le Seigneur m'a expliqué. J'ai compris avec l'histoire de la culture, l'histoire des choses d'héritage. J'ai compris que quand Dieu veut faire une œuvre, il te sépare dans un premier temps. Il te sépare parce qu'il ne veut pas que tu sois influencé par ton entourage. Il veut te séparer d'abord. Parce qu'il y a une vraie lutte avec... Vous voyez comment Jésus avait à lutter à chaque fois par rapport à sa famille. Dans Matthieu 12, il y a sa famille qui vient. Pendant qu'il est en train de prêcher, on lui dit, mais ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Donc Jésus était sans cesse en train de résister à cette histoire de culture. C'est une vraie lutte. Il ne faut pas sous-estimer les choses. C'est une vraie lutte spirituelle. Quand il y a des gens qui insistent sur leur nom de famille, ils insistent sur des procédés familiaux qui sont en réalité des moyens de communication de mauvais esprits avec la famille. Donc il faut être prudent et vigilant. Paul a dit, je suis vigilant. Je cours, je ne tape pas au hasard. Je suis vigilant. Parce que je peux tomber sous la domination de la culture. Et, frère Simon, tu peux lire le verset 19. Vraiment, c'est important. C'est notre introduction. Corinthiens 9, 19.
Verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre.
Voilà, il commence par dire je suis libre. Je suis comme un ange. Je n'appartiens à aucun peuple. Je suis libre à l'égard de tous. Je suis libre à l'égard des Juifs. Je suis libre à l'égard des Grecs. Je suis libre. Et c'est cette liberté qui me permet de pouvoir servir tout le monde. Donc, ça doit commencer par là. Être libéré soi-même. Arrêter lorsqu'on voit la culture de l'autre commencer à dire, mais ils ne font pas les choses normalement. Mais normalement, en fonction de qui? Donc, tu dois être libre de ta propre culture. C'est à partir de là que tu peux maintenant saisir l'évangile véritable et toucher tout le monde. Il y a la culture religieuse aussi. Hein. Il n'y a pas que la culture d'un pays. Il y a la culture religieuse, il y a la culture contemporaine. Il y a la façon dont les gens font les choses aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde vend les choses aujourd'hui que toi, tu dois les vendre dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que autrefois, dans l'église où tu étais, ça se passait comme ceci. Tu ne peux pas vivre autre chose. Donc on ne peut pas être esclave d'une façon de faire. Nous devons être libres de tout le monde. Être attachés à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu qui, à chaque fois, ensemble avec d'autres personnes libérées, l'Esprit de Dieu va nous amener à faire l'œuvre de Dieu avec efficacité. À chaque fois que nous prenons des décisions, veillons à ce que ça ne soit pas issu de notre héritage de connaissances, des pratiques d'autrefois. Veillons à ce que ça soit biblique. Et quand c'est biblique, Dieu va soutenir, va couvrir cela de sa gloire. Donc Paul dit, je suis libre. C'est important. Et il dit, avec les Juifs, j'ai été comme avec les Juifs. Afin de gagner les Juifs. Ça ne veut pas dire qu'il a pris la culture juive. Non, il s'est mis ensemble avec eux. Il s'est intégré en faisant des choses qu'eux, ils faisaient, qui ne contredisaient pas la parole. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, mais ce n'est pas pour faire les choses qui contredisent ma mission. Non, c'est juste que S'ils aiment laisser la barbe, j'ai laissé la barbe pour être comme l'un d'entre eux, comme le Seigneur Jésus est devenu homme pour nous sauver. Comme j'ai donné l'exemple hier de Hudson Taylor, l'anglais, quand il est parti en Chine, il a mis les vêtements des Chinois Alors que les prédécesseurs d'Hudson Taylor, quand ils sont partis là-bas, eux, ils s'habillaient comme les Anglais en Chine, costume trois pièces, le thé à 16 heures, tout ça, et ils n'ont converti pratiquement personne. Alors qu'ils avaient des grandes sociétés de missionnaires, des grands bâtiments. Mais Hudson Taylor s'est habillé comme les Chinois, il a laissé la barbe pousser comme les Chinois. Il a parlé chinois, il n'a pas appris aux Chinois l'anglais. C'est lui qui a appris le chinois pour pouvoir parler aux Chinois en chinois. C'est ça que Paul dit. Je suis libéré de ma culture, ça me permet de servir les autres. C'est pourquoi le ministère de beaucoup de personnes reste bloqué à un niveau, parce qu'ils ne sont pas libérés de leur culture. Ils sont esclaves. Il faut être libéré de sa culture, libéré des traditions pour pouvoir servir Dieu réellement. Donc il faut prendre conscience de cela et voir les choses comme Dieu lui-même voit. Dieu nous voit, vous savez comment il nous voit? Il nous voit comme des anges. Il nous voit comme des citoyens du ciel. Quand il nous a sauvés, c'est comme si, c'est pas comme si, parce qu'on dit même que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc quand il nous a sauvés, il nous a transportés d'abord au ciel. Il s'est réjoui et il nous a renvoyés sur la terre en mission. Nous sommes en mission sur terre. Nous ne sommes pas là pour défendre la terre, mais nous sommes en mission pour sauver les autres qui ne sont pas encore sauvés. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Donc c'est le premier point. Si nous voulons être libérés de la culture, libérés de puissances environnantes, nous devons comprendre que nous sommes des étrangers. Nous sommes en mission. Dieu nous a transportés au ciel et il nous a renvoyés pour dire, bon, je pouvais vous garder, mais rentrez, faire le travail. À partir de cela, quand tu te vois comme citoyen du ciel, tu ne peux pas te laisser dominer par une culture, dominer par des façons de faire, parce que tu es citoyen du ciel. Et il faut être humble pour en arriver là. Vraiment, il faut, deuxièmement, accepter humblement que ta culture a tort. Ça demande de l'humilité. Accepter que ma culture se trompe. Vous savez pourquoi c'est difficile d'accepter ça? Parce qu'on est souvent confronté à d'autres cultures et on a l'impression que d'accepter que notre culture a tort, c'est comme si on disait qu'elle est inférieure aux autres cultures humaines. Non. Ce qui est le plus important, comme le pasteur avait dit vendredi, il n'y a que deux camps. Il y a toutes les cultures dans un camp et l'autre camp, c'est Dieu, la Bible et le Saint-Esprit. Donc quand tu reconnais que ta culture a tort, ce n'est pas face aux autres cultures, c'est face à Dieu. Mais ça demande de l'humilité. Nous, on a vu beaucoup de résistance. Moi, dans beaucoup d'endroits où j'ai prêché, c'est que je suis en train de prêcher là. Ils ne m'ont plus réinvité. Parce que les gens ont du mal à accepter que leur culture est mauvaise. Et même quand tu parles alors que tu es d'origine, de la même origine qu'eux, ils finissent par te traiter, ils disent, mais il est devenu comme un blanc. Non, mais il te traite comme un étranger. Et quand ils parlent de toi aux autres, ils disent, votre type là, voilà. Parce que tu n'as pas voulu céder à la culture. Les gens veulent qu'on cède. Il faut dire non. Mais ça commence par reconnaître, non, je me suis trompé. Toute ma vie, je me suis trompé. J'étais dans la mauvaise culture. Ça ne veut pas dire que les autres cultures me dépassent. Ça veut dire tout simplement que ma culture ne correspond pas à l'évangile. Je me suis trompé. Et quand tu reconnais ça, Dieu va commencer à te montrer les failles claires, techniques de ta culture d'origine. C'est très important. Et Dieu nous prépare. Je vous ai donné l'exemple de Paul. Hein. Paul, Dieu, l'a préparé. Donc, c'est quelqu'un qui est né à Tarse, au lieu d'être né en Israël. Il a vécu aussi un peu là-bas. Et celui qui pouvait vraiment porter l'évangile clairement, même si les apôtres le portaient aussi clairement, mais ils avaient de la frilosité par rapport à l'étranger. Paul, c'est lui qui est venu enlever ça. Et le Seigneur m'a fait passer par le Maroc, là où on était déjà dans le milieu étudiant. On avait des amis de toutes nationalités. C'était une première délivrance physique, sans que ça soit encore en esprit, mais déjà physiquement. Dieu te fait physiquement, tu te rends compte que tous les autres sont des humains. Parce que quand tu es dans ton pays d'origine, tu considères les étrangers comme des profiteurs. Tu considères les étrangers comme des voleurs. Parce que tu te dis, s'ils sont venus chez nous, c'est qu'il n'y a rien chez eux. Maintenant, quand toi-même tu deviens étranger, tu te rends compte que toi aussi tu es traité de la même manière. Et tu te rends compte que tu te trompais quand tu n'aimais pas l'étranger. Tu te trompais quand tu croyais qu'ils n'avaient rien du tout, parce que c'est là que tu te rends compte. Mais ils ont beaucoup de choses, parce que tu ne les connaissais pas. Ça a été une première délivrance physique. À l'université, tout le monde, on jouait au football ensemble, on se mettait ensemble, on travaillait ensemble. Et on mangeait ensemble. Tu as fini par comprendre que, voilà, il n'y avait pas de culture supérieure. C'est très important. Dieu prépare les gens à une mission. Et dans notre église, il y avait un article, c'était l'article 8. La langue parlée, c'est le français. Parce qu'on était d'origine diverse, de pays différents. Pour permettre la cohésion, il y avait l'article 8 qui disait, la langue parlée, c'est le français. Parce que la langue a une puissance pour imposer une culture, quelque part. Le français, ce n'était pas pour imposer la culture française, c'était pour avoir un moyen de communication, un moyen qui soit neutre. Comme le pasteur avait expliqué le vendredi, avant la tour de Babel, les gens n'avaient qu'une seule langue, donc il n'y avait pas de culture encore. Parce qu'ils n'avaient qu'une seule langue. Les langues, c'est elles qui ont été le socle de construction de culture quand Dieu a multiplié les langues pour les égarer. Et donc, dans notre église au Maroc, la langue autorisée, c'était le français. Et ça a permis qu'on aime les chrétiens de tous les pays. Ça a permis qu'on comprenne la vocation de sauver l'humanité entière du Seigneur. Sinon, tu es toujours bloqué. Il y a ta culture qui prédomine. Dieu m'a préparé, bien-aimé. Dieu, il nous prépare et il nous donne ce séminaire. C'est la troisième fois qu'on fait ce séminaire. Donc, il est en train de préparer des gens pour te dire, mais sors de ta culture. Il est en train de parler à des gens parce que c'est la troisième fois. Pourquoi la troisième fois? Nous-mêmes, on ne sait pas. Mais il y a la conviction du Saint-Esprit de refaire. Parce que Dieu prépare les gens qui sont encore esclaves. Il faut être libéré. Ça commence par l'humilité. Reconnaître que ma culture s'est trompée. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est la Bible. Il y a des gens qui, quand ils passent un temps avec nous, ils disent, mais c'est froid, il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas d'amen, il n'y a pas, mais bien-aimé, ça c'est la culture. Quand Jésus prêchait, il y avait des alléluia, il y avait des amen. Celui qui veut dire alléluia, il est libre, du moment qu'on n'interdit pas ça. Mais s'il n'y a pas, pourquoi tu veux t'accrocher à un truc qu'il n'y a pas dans la Bible, que tu as vu ailleurs, tu veux imposer ça maintenant dans toutes les églises? Si au moins tu avais vu ça dans la Bible, même si c'était dans la Bible, ce n'est pas obligatoire, parce que Jésus parfois a prêché, il était sur une barque. Donc là, on va m'obliger d'aller sur la Seine, monter dans une barque et prêcher. Moi aussi, je ne sais pas nager, donc voilà. On ne sait jamais. Non, donc même si c'était déjà dans la Bible, ce n'est pas obligatoire. Mais déjà, ce n'est pas dans la Bible. Donc tu as été dans une église où on criait, prêche, parle. Et tu veux qu'ici aussi, on crie, on parle, et tu dis, ah, là ici, c'est froid, les gens sont calmes. Mais les gens sont en train d'écouter. Comment tu peux écouter en parlant? Là où les gens vont faire parler, on ne va pas critiquer. On dit, ah ben c'est, leur, c'est comme ça qu'ils reçoivent. Mais vouloir imposer la même chose partout, c'est la suite de la culture. Ta culture que tu veux amener partout, la culture religieuse que tu as reçue. Non, il faut reconnaître que tu t'es trompé. La seule culture, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Tant que les choses sont faites selon la parole de Dieu, gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut suivre. Donc, deuxièmement, s'humilier. S'humilier pour reconnaître les torts de sa culture. Après s'être considéré comme citoyen du ciel, tu t'humilies pour reconnaître les torts de ta culture. Donc, parce que ça commence par la nouvelle naissance. Mais après, on a besoin de se confronter à notre culture. Je ne demande pas d'abord de s'humilier par rapport à la culture. D'abord, il faut le miracle de la nouvelle naissance. Après, tu es face à ta culture, face aux cultures. C'est là que tu te rebelles, tu dis non. Moi, je m'humilie. Je reconnais que ma culture est une erreur. Maintenant, je veux m'attacher au Seigneur, faire les choses selon le Seigneur. Je reconnais qu'il y a des gens qui disent, mais mon père m'a toujours dit ceci, mon père m'a dit toujours cela. Mais oui, mais ce n'est pas ton père qui est la vérité, c'est Dieu qui est la vérité. C'est la Bible qui est la vérité. Il faut suivre la Bible. Parce que la logique que tu tiens là, comment tu vas te sauver maintenant le musulman qui va dire aussi son père lui a dit ça? Tu es bloqué. Toi, tu tiens cette logique-là, mais dans le christianisme. Mais mon père a toujours fait comme ça, mon père, ma famille. Oui, mais ta famille, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la Bible. Ta logique que tu tiens t'empêchera de sauver d'autres aussi qui s'attachent à des fausses choses, comme l'islam, comme le catholicisme. Donc, ils vont dire, c'est la famille, on a toujours fait comme ça. Mais faire toujours comme ça, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la Bible. Troisièmement, bien-aimés, nous devons vivre en nous servant des éléments bibliques qui s'opposent au point nocif de notre culture d'origine ou d'emprunt. Nous devons cibler, voir bien que ça, c'est l'influence de la culture, je vais résister à ça. C'est important. Moi, je n'écoute presque pas la musique de mon pays d'origine parce que je considère qu'il y a eu beaucoup de pollution là-bas. Les gens disent « j'exagère », mais chacun a son parcours. Je dis comme Paul, je ne veux pas être, après avoir prêché aux autres, moi-même tombé. Je fais attention. Les esprits, ça se reçoit en douceur. Voilà. Là où je sens qu'il y a la pollution, même si c'est mon pays d'origine, je n'écoute pas. Voilà. Je préfère écouter Agapé, je suis tranquille. Ce n'est pas une publicité, mais puisque on va me dire, mais pasteur, on va écouter quoi? Écoutez Agapé. Vous allez chercher, vous allez trouver. C'est important. Parce que petit à petit, toi aussi, quand tu vas devenir musicien, tu vas vouloir vendre les albums. Tu vas danser comme quand toi, tu regardais les autres faire. Voilà, mais quand tu sens que... J'avais vu un dernier concert que j'ai vu, il y avait la publicité d'une boisson, un concert chrétien. Il y avait un gros panneau publicité d'une boisson sur l'estrade. Bien-aimé, moi, je suis fier de Dieu. Je ne peux pas accepter qu'un nom dépasse le nom de Dieu. Donc, on est en train de chanter pour Dieu. Derrière nous, il y a un gros panneau, c'est écrit Maltina, une boisson païenne, même si c'est une boisson sucrée, mais une boisson qui va prendre le nom de Dieu. Moi, je ne regarde pas ça. Et j'ai interdit ça dans ma maison, que les enfants regardent ça. Le nom d'une boisson chez moi, là où on parle de Jésus. Comme d'habitude, on va dire, il exagère. Je n'exagère pas. Dieu est plus grand. Il faut résister. Ça fait mal, mais après on est délivré. Ce n'est pas Martina qui sauve, c'est Jésus. Et quand c'est écrit comme ça, ça donne l'impression que c'est Martina qui sauve. Et en grand, c'est écrit en grand. Pourquoi? C'est parce que c'est eux qui ont payé, qui ont sponsorisé le concert. Parce que quand tu vas protester, les gens vont te dire, mais c'est eux qui ont... Si ce n'était pas eux, il n'y aurait pas eu le concert. Faux. Si Dieu veut qu'il y ait un concert, il y aura le concert. Il donnera les moyens. Maintenant, je ne juge pas ceux qui regardent, j'ai dit moi. Voilà. Que chacun fasse selon la parole. Donc, il faut vivre. Tu te sers des éléments. La Bible dit, séparez-vous. Là où on fait du mélange, tu te sépares. Les éléments bibliques. Vivre avec cela. Ne pas se laisser endoctriner par la culture. Là où on veut, comme je dis hier, quand on avait commencé l'église ici, il y a des gens qui sortaient à 11h45 pour aller manger. Au début, hein, il y a 15 ans. Alors quand c'est comme ça, le pasteur, pour ne pas perdre les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à finir le culte à 11h30. Moi, j'ai dit, nous, on va continuer à 12h30, à 13h. Mais je veux prêcher le véritable Jésus. Pendant 4 mois, j'ai prêché sur 100% pour Jésus, mais en changeant de titre à chaque fois. Mais je prêchais la même chose, mais je changeais les titres. Et après tout ça, les gens n'ont plus quitté à 11h45. Ils étaient 100% pour Jésus. Ils restaient jusqu'à la fin du culte. Mais si tu n'es pas vigilant, c'est toi qui vas changer. C'est-à-dire, ah, les gens s'en vont. Déjà, il faut mettre les offrandes à 11h. Après, il faut mettre telle chose à 11h. Donc, à 30, on finit. Il y a même des églises où, pendant les annonces, le monsieur qui fait les annonces va très vite. Bon appétit à tout le monde. C'est quoi ça? Les gens ont déjà mangé la parole, ils sont bien. Toi, tu veux les ennuyer avec les histoires de nourriture physique. Tout ça, c'est la culture qui s'investit dans les choses de Dieu. Il faut résister. Il faut résister. La culture ne doit pas bloquer l'avancement de l'évangile. Nous allons prendre un exemple dans Daniel au chapitre 2. Daniel 2, à partir du premier verset, après je veux, je vais t'arrêter, je crois.
La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit... »
Ah, excuse-moi, frère Simon, c'est pardon, c'est Daniel chapitre 1er. Oh là là.
Premier, ok.
À partir du verset 8.
Premier,
8 jusqu'à
verset 8.
À la fin, 21.
Très bien. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michal et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.
Voilà un événement clair qui montre le combat face à la culture. Daniel est déporté d'Israël à Babylone. Il est dans un pays étranger, c'est comme nous les chrétiens. Aujourd'hui, le monde est un pays étranger pour nous. On est dans le monde et on fait face maintenant aux cultures et à la culture surtout d'origine. Et Daniel est mis au service du roi, mais il faut faire une sélection parmi les gens qui viennent de tous les pays, pour les jeunes qui viennent de tous les pays pour être au service du roi. On les nourrit, on leur fait des choses, des études, des exercices physiques, nourriture pour pouvoir être présentés après sélection au service du roi. Daniel dit, je ne veux pas manger la nourriture qui vient de chez le roi parce qu'elle est souillée. Le responsable de ces jeunes-là dit à Daniel, mais si vous ne mangez pas comme tout le monde, vous allez paraître maigre et sans vie. J'aurai des problèmes avec le roi. Daniel dit, laisse-nous 10 jours, on va tester. Nous, on va manger ce qu'on a l'habitude de manger. Nous, on va manger ce qui est sain, bibliquement. Et vous allez manger le reste. On va voir. Et 10 jours après, les Daniel étaient physiquement beaucoup plus présentable que tous les autres. C'est pour nous dire quoi, bien-aimés? Les gens vont nous dire, mais faites comme tout le monde si vous voulez avoir une salle. Faites comme tout le monde si vous voulez que le maire vous accorde ceci, cela. Faites comme tout le monde si vous voulez avoir du monde. On doit résister. Daniel a résisté. Et il a été plus brillant qu'avant. Il est écrit au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. 10 fois supérieurs. Pourquoi nous ne brillons plus? Parce que nous faisons le compromis. Nous voulons plaire à tout le monde. Nous voulons plaire à notre famille. Nous voulons plaire à celui-ci. Non. Daniel a dit, nous allons nous comporter selon Dieu, selon la parole. Nous allons manger comme nous trouvons que c'est sain. Mais les gens vous diront, mais où est le mal? Tout le monde mange comme ça. Je ne pense pas que tous les Juifs se sont comportés comme Daniel. Sinon, on allait dire tous les Juifs. C'est lui et les trois amis qui se sont comportés comme ça. Et je me souviens une fois, une dame avait organisé 2 concerts, un concert de sa chorale et c'est une association, et ils nous invitaient aussi. Comme nous, on va partout, même lors d'un anniversaire, tu nous invites, nous, on vient chanter et bombarder la parole. Voilà. Nous, on a dit oui. Et quelques temps après, elle appelle notre responsable pour dire, écoutez, est-ce que vous pourrez nous laisser utiliser vos micros avant vous, puisque vos micros sont là, est-ce qu'on peut les utiliser avant vous? La responsable a dit, je ne pense pas que notre responsable acceptera. Donc, je ne crois pas qu'on puisse vous laisser, puisque vous êtes mélangés, vous allez chanter des chants catholiques et vous êtes mélangés. C'est une chorale un peu catholique. Donc, nous, on ne peut pas. En fait, c'est une chorale universelle. Voilà. Ils chantent les chants du monde, ils chantent les chants, voilà, mélangés. La dame a dit, mais moi, je suis chrétienne. Je ne vois pas de mal. Tous les chants que nous allons chanter, ce sont des chants qui parlent de la parole de Dieu. Il y a un chant de Noël, il y a ainsi de suite. Et la sœur a dit, mais nous, on ne croit pas en Noël, donc vous allez chanter Noël sur nos micros, ça va faire problème. Elle a insisté. Deuxième coup de fil, et puis d'autres, finalement, la dame a dit, mais passe-moi le numéro de votre responsable. Donc, elle a fait l'erreur de m'appeler. Donc, j'étais en chemin pour la boule et je l'ai eu au téléphone. Elle a voulu me convaincre. J'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez me convaincre de boire du poison? Oh non. Ah. Donc, comment vous voulez que moi, je sais que vos chants sont pollués par le catholicisme et le monde. Et moi, je passe mon temps à dire qu'il faut s'accrocher à Jésus, à la Bible, fuir les fausses choses. Maintenant, je vais permettre que nos micros soient utilisés pour de tels chants. Ça contredit, c'est comme si vous me tuez. Vous comprenez? C'est ça qui l'a calmé. On a dit, mais c'est comme si vous me demandez de me tuer. Parce que ça s'oppose à ce à quoi ma vie est consacrée. C'est comme si on me tue. C'est ça qui a permis qu'elle comprenne. Mais ce jour-là, bien-aimé, on a vécu la sécheresse. Parce que quand eux, ils ont fini, ils ont déjà. Parce qu'elle a eu le temps d'ameuter tout le monde sur notre, entre guillemets, mauvais comportement. Donc, dès qu'ils ont fini, ils ont emporté tout le monde. Et le public, et tout le monde est parti. Donc, on a chanté devant la place Saint-Marc. On a chanté devant l'espace. Bon, il y avait trois ou quatre personnes qui étaient là, ou cinq ou six, mais ils ont emporté le public. Mais heureusement, on a quand même des haut-parleurs forts. Les gens écoutaient de leurs fenêtres de chez eux, ils restaient dans les fenêtres, ils écoutaient. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas facile, mais on doit rester dans la vérité. Mais on a loué l'Éternel ce jour-là. On reste dans la vérité. Et Dieu nous montrera qu'on a brillé ce soir-là. Même si aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu, mais un jour, Dieu nous montrera le film. Il nous montrera comment ça a été pour sa gloire. Et on saura qu'on aurait brillé ce jour-là. On avait brillé ce jour-là. C'est vraiment important. Daniel a résisté. Et ils ont brillé. La logique, c'est de nous dire, mais bien-aimés, si vous continuez comme ça dans votre extrémisme, vous n'allez pas avoir des résultats, c'est faux. Continuons dans la vérité. N'entrons pas dans le compromis. Dieu est Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il récoltera. S'il sème dans la vérité, il récoltera aussi. On a tendance à dire aux gens qui sont dans la vérité, tu ne vas pas récolter parce que les gens n'aiment pas ça. Non. Au début, quand on avait commencé les concerts ici en France, les gens quittaient la salle dès qu'on parlait de Jésus. Les gens quittaient la salle. Dès que trois chants se succédaient en français, ils quittaient la salle en nombre. Mais depuis quelques années, ils ne quittent plus la salle. Il n'y a que 2%, peut-être 1% des gens qui quittent la salle. Il y a des gens qui restent. Et après, ils courent pour qu'on leur donne la Bible, des choses. Le dernier concert à la Baule, où on était surpris. malgré tout ce qu'on a dit, on a même fait un sketch clair qui parlait de l'évangile clairement, du péché clairement. Mais malgré ce sketch, malgré les chants, malgré les exhortations pendant les chants, les gens ne sont pas partis. Peut-être 5 ou 10 personnes, mais il y en avait combien? Il y en avait plus de 300, je crois. Et à la fin, ils ont fait la queue pour avoir la documentation chrétienne, la Bible. Mais c'est des choses qu'on ne vivait pas au début. Au début, les gens s'en allaient. Mais Dieu est tout-puissant. Continuons à semer dans la vérité. Il agira. Daniel a résisté. Et Dieu s'est glorifié. N'ayons pas peur de résister, même ouvertement. Et la vie de Daniel, ça a été comme ça. Il y a eu un épisode où ses amis ont dû résister à adorer la statue d'or. Nebuchadnezzar a dit, mais vous adorez la statue, sinon je vous jette dans le feu. Ils ont dit, on ne peut pas adorer. Mais vous allez dire comme nous, mais nous, on ne nous demande pas d'adorer une statue. Si, dans les compromis qu'on nous impose, c'est comme adorer une statue d'or. Nous devons résister. Une fois, quelqu'un est venu me voir, mais on doit. Je suis évangélique comme vous. Nous, on n'est pas évangélique. Nous, on est des chrétiens. Bon, je n'ai pas voulu contredire. Je l'ai écouté. Nous, on est des chrétiens. On suit la Bible. On n'est pas évangélique. On n'est pas je ne sais pas quoi. Voilà. Je l'ai écouté. Je suis évangélique comme vous. On organise des concerts dans la région pour le salut des âmes. Et. Cette fois-ci, ça va être au Bec et Loin. Vous savez, le Bec et Loin, c'est un sanctuaire du catholicisme. Et il y aura 1000 personnes. Il me donne le nombre pour m'appâter. Il y aura 1000 personnes environ. Et nous, on est habitués à chanter. Parfois, on est plus nombreux que les spectateurs. Donc, ce n'est pas le nombre qui va nous faire peur. Parfois, nous, la chorale, on est 20. Il y a 10 spectateurs. Voilà. On a appris à chanter pour l'Éternel, pas pour les hommes. Si les hommes sont là, gloire à Dieu. Ils ne sont pas là, les anges étaient là. Voilà. Ça nous suffit. Il dit, il y aura 1000 personnes. Moi, je lui dis, mais monsieur, ça, c'est le Bec est loin, c'est un temple catholique. Ah oui, mais il n'y a pas de problème, toutes les églises ici sont d'accord, il n'y a que vous. Moi, je dis, oui, nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Bien-aimé, c'est dur parce que vous, moi, je vous raconte ça. Mais vivre ça, parce que le monsieur était doux comme une colombe. Il était vraiment doux. Il était compagnon de sa femme. Comme sa femme avait la peau noire, il se disait, ça peut m'influencer un peu. Non, bien-aimé. Rien, c'est Jésus qui compte, bien-aimé. Daniel a dit à Nebuchadnezzar. Non, les amis de Daniel ont dit au roi. On dit, roi, nous ne pouvons pas nous prosterner. Le roi dit, mais vous ne voyez pas que je vais vous brûler dans la fournaise. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas de polémique à faire. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous allons au ciel. Même s'il ne nous délivre pas, il est le seul vrai Dieu. Il est le véritable Dieu. Combien de fois dans la maladie, Satan nous a fait croire que Dieu était faible. Non, il faut dire à Satan, même si je meurs dans ma maladie, Dieu reste Dieu. Et là, tu verras comment la maladie va fuir. Aujourd'hui, les chrétiens veulent quoi? Ils veulent qu'on prie pour lui. Il est guéri. Mais il ne veut pas lutter contre la forteresse de la maladie. Il veut juste qu'on lui impose la main, ou bien que lui-même prie et qu'il soit guéri. Mais Dieu veut qu'on lutte aussi contre la forteresse. Comme j'aime Ésaïe 36, quand Sanchérib est venu menacer Israël et on est venu demander l'aide du prophète, le prophète a prié, il a donné sa réponse. Il dit, elle se moque de toi, la fille de Sion. Elle se moque de toi. Sanchérib a dit, je vais vous détruire, j'ai détruit tous les peuples. Ce n'est pas vous qui allez me résister. D'ailleurs, ça doit être sûrement votre Dieu qui me demande de vous détruire. Le prophète Ésaïe a prié l'Éternel. Il a donné la réponse, envoyé la réponse à Sanchérib. Il dit, elle se moque de toi, la fille de Sion. Bien-aimé, quand la maladie semble te déstabiliser, tu dis, elle se moque de toi, le fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, fils de Dieu, tu dis à la maladie, elle se moque de toi. Parce que Jésus-Christ à la croix a vaincu cela. Même si après cette phrase, tu n'es pas toujours guéri, tu continues, je le louerai encore. Dans le psaume 42, David dit quoi? Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Ne se précipitons pas à prendre des rendez-vous médicaux. Je n'interdis pas cela. Mais la première chose, c'est résister à la forteresse. Dire la maladie ne peut pas me gérer. Mon corps doit louer l'Éternel. Ma vie doit louer l'Éternel. Ah là, la maladie est en train de me rendre triste. Je ne peux pas louer Dieu. Ce n'est pas normal. Je veux louer l'Éternel. S'il faut que je prenne un rendez-vous, ça sera par l'inspiration du Saint-Esprit et non pas par la déstabilisation ni la peur. Amen. Il faut aussi ça. Vaincre la forteresse et attendre la guérison de Dieu, même si on doit consulter des médecins. Bien-aimé, il faut résister. Aujourd'hui, on veut nous imposer les médicaments à tout prix. Nous devons toujours consulter Dieu et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça la culture. Imposer telle façon de faire. Non. On doit consulter le Seigneur. Et on ne doit pas avoir honte de résister ouvertement s'il le faut. Ce n'est pas, notre métier de commencer à dire à gauche, à droite, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non. Mais quand on est face à une confrontation, on résiste ouvertement. C'est ce qu'ont fait les amis de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire la conclusion dans Daniel 3. Nous allons lire la conclusion dans Daniel 3, à partir du verset 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont résisté et on les a mis dans la fournaise
Daniel,
pour qu'ils brûlent.
Daniel 3, 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et dans la maison, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Amen. On les envoie dans le feu. Mais le roi ne comprend pas, ils ne sont pas brûlés. Et il y a un quatrième homme avec eux, l'ange de l'Éternel. Le roi dit, sortez, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je comprends maintenant que votre Dieu est Tout-Puissant. Bien-aimés, les confrontations, c'est ça qui produira la gloire de Dieu. Ne fouillons pas les confrontations avec les coutumes. Ne fouillons pas les confrontations avec la culture. C'est ça qui produira la gloire de Dieu. Quand ils ont résisté, c'est là que Dieu s'est manifesté. Et c'est le roi lui-même qui a dit le véritable Dieu, c'est le Dieu des chrétiens. C'est important, bien-aimé. Quand je suis parti au mariage de ma sœur, en 2002, j'ai pris l'avion pour faire 7000 kilomètres, mais j'ai refusé d'entrer dans le temple catholique parce que ça se déroulait là-bas. Vous savez, les gens, ils ne prient même pas là-bas vraiment, mais quand il y a ce mariage, il faut aller dans le temple catholique. Quand il y a mort, il faut aller dans... Parfois, ils n'y vont même pas. Donc, c'est la culture. Et pour eux, c'est rien du tout parce qu'ils sont prêts à y aller après, aller dans les boîtes de nuit, s'enivrer, faire ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas que toi aussi, toi, tu trouves ça important. Eux, ils ne trouvent pas ça important. Mais toi, tu connais les choses spirituelles. Tu connais les implications. J'ai dit, je n'entre pas. Ils m'ont dit, mais les gens m'ont dit, mais pourquoi? C'est ta sœur. Tu as quitté la France pour venir ici au mariage. Tu n'entres pas dans ce lieu. Oui, mais moi, j'ai dit, mais vous savez que dans ce lieu, on adore les statues. Il y a les statues à gauche, à droite. Et le culte même qui est fait, ce n'est pas fait au nom de Jésus, clairement. C'est fait au nom des autres forces. Je ne peux pas. La Bible interdit ce qui se fait dans ce lieu-là. Les gens ont dit, quand même, tu t'es déplacé comme ça. Moi, j'ai dit, je ne peux pas. C'est comme ça. Il faut suivre la Bible. Mais bien aimé, 2 ans après, ma sœur s'est convertie. Elle était devant sa maison. Elle était catholique officiellement. Et elle voit une procession catholique. Donc, une suite de gens qui marche avec une statue. C'est ce qu'on appelle une procession. Il voit une procession catholique. Elle était devant sa maison. Il y a en lui quelque chose qui lui a fait clairement dire, mais ça, c'est pas Dieu, ça. À partir de ce jour-là, elle a arrêté. Là où on pensait que j'allais énerver la personne allait se rebeller contre Dieu, la personne allait me détester, finalement, la personne, je peux dire que dans ma famille, après moi, c'est mes 2 sœurs-là qui sont vraiment converties à Jésus. Véritablement. Mais pourtant, on pouvait croire que ce choc-là allait faire la chose inverse. Mais non, Dieu est Dieu. Et quand je dis converti, hein, ce n'est pas de la blague. Parce qu'il y a eu un sacrifice. Acceptons de faire des sacrifices et défendre la vérité. Dieu se glorifiera. Je finis en disant que pour vaincre tout ça, les cultures et être libérés, il faut considérer vraiment que nous allons au ciel. Parce que les cultures nous tiennent parce que nous envisageons trop notre vie terrestre. Mais si nous sommes dans une optique de vie céleste, ça ne va plus nous prendre. Parce qu'on sait qu'au ciel, on sera ensemble, les Coréens, les Juifs, les Chinois. On sera un même peuple. L'Apocalypse nous montre que nous sommes un même peuple. On sera ensemble. Donc, aucune culture ne peut te tenir si tu es quelqu'un qui vit au ciel en même temps que sur la terre. Ça ne peut pas te tenir. Ça te tient quand ta vie sur terre est plus importante que ta vie céleste. Quand ta vie sur terre est plus importante que l'espérance céleste. Nous devons vivre dans l'espérance céleste. Vivre vraiment en passager sur la terre, sachant que le Seigneur nous a préparé une place au ciel. Quelqu'un comme Étienne, c'était quelqu'un qui était puissant en parole et en miracle, mais il n'a pas vécu longtemps. Après sa conversion, il est parti au ciel. Ça veut dire que la vie sur terre, ce n'est pas la plus importante. C'est la vie au ciel qui est la plus importante. Jésus n'a vécu que 33 ans ici sur terre. Si la vie terrestre était extraordinaire, il aurait vécu 120 ans. Il a vécu 33 ans. C'est la vie du ciel qui est la plus importante. Prions chaque jour, Seigneur, branche-moi au ciel, que je sois dans une logique céleste. Ça influencera la manière dont tu éduqueras tes enfants. Ça influencera ta manière dont tu verras l'argent. Parce que tu vis au ciel en même temps. Et tu considères que c'est le ciel l'objectif. Ça changera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais je le dis et j'espère que le Saint-Esprit, je compte sur le fait que le Saint-Esprit explique ça. Quand on vit dans une logique céleste, on est au-dessus. Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est ça. Tu vis sur les lieux élevés. Quelqu'un va tourner avec... Il y a des faux pasteurs qui ont Hammer, Jaguar, Rolls-Royce. Il va tourner avec ça, avec un t-shirt de catcheur, pour dire que Dieu le bénit. Tu rigoles, tu dis, moi au ciel. J'ai une 4x4 qui marche sans essence. Voilà. Rigole avec tes 4x4 ici. Moi, je me réjouis de ce qui m'attend au ciel. Avec quand tu meurs en Christ, il y a un char de feu qui vient te chercher. Ah, c'est extraordinaire, hein? Il y a un chant gospel qui dit ça. Ezekiel. Hein? On chante là. Ézéchiel a vu un char qui venait du ciel. Donc tu montes comme un patron. Le Seigneur dit dans Luc 17, quand on sera au ciel, il va nous servir. C'est extraordinaire. Il dit que là, c'est lui qui va nous servir. Quand je pense à ça, je trouve ça extraordinaire. Que le Seigneur des Seigneurs, il va te servir au ciel. Alors pourquoi, bien-aimé, insister et perdre son temps à s'accrocher à des choses de la terre? L'apôtre Paul dit, frère Siméon, pour clôturer, acte 20, 24. Acte 20, 24.
Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Amen, amen. Je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma mission, j'accomplisse ma course. Que personne ne te sorte de la mission de Dieu, ni ta femme, ni tes enfants, ni ta culture, ni la chair. Paul dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Le plus important, que je fasse la volonté de Dieu. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à accomplir ta volonté, à nous humilier, à reconnaître qu'on s'est trompé en considérant notre culture comme une seconde vérité. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier devant toi et à recevoir la vie du ciel. Merci, Seigneur, de nous purifier des héritages anciens, héritages religieux, héritages de la culture du pays d'origine, héritages de la culture du pays d'accueil, héritages de la mode, héritages de la culture populaire, de la culture du monde contemporaine. Purifie-nous de tout cela, que nous puissions marcher dans la simplicité, vivant pour l'Évangile à tous les niveaux. Nous voulons nous laisser entre tes mains comme le vase dans les mains du potier. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Oh, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et que je sois comme toi. Oui, Seigneur, libère-nous de l'orgueil de notre ancienne culture. Seigneur, il y a beaucoup de cultures qui enseignent l'orgueil d'une manière subtile. Et cet orgueil nous empêche de nous humilier devant les autres. Seigneur, purifie-nous de cet orgueil dû à notre origine. Purifie-nous, Seigneur, que nous soyons simples, que nous considérions, comme c'est écrit, les autres comme supérieurs à nous-mêmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.